Je crois que il faut quand même rappeler peut-être que justement des choses un peu historiques, c'est-à-dire de redire que les questions religieuses dans notre histoire nationale et les affrontements autour de la religion ont une importance particulière parce qu'à chaque fois que notre unité nationale a été en péril, si j'ose dire, ou notre construction nationale a été en péril, c'est lié essentiellement à des affrontements à caractère religieux. On peut penser bien évidemment à l'affrontement entre catholiques et protestants, avec en plus la dimension à l'époque d'intervention étrangère sur le français, mais il y a aussi l'affaire Dreyfus, Vichy, et sur la longue durée, l'opposition entre catholiques et républicains, qui commence avec la Révolution française et qui va aboutir à ce long mouvement de laïcisation de la société française qui parcourt tout le XIXe siècle, hein, et qui débute donc avec la Révolution française, avec des épisodes autour de la Vendée, bien sûr. Et je crois que dès qu'on parle de l'islam tel qu'il est aujourd'hui, il y a, je pense, cet arrière-fond qui apparaît, ou une sorte de permanence rétinienne. On pourrait dire quand même que cette longue histoire qui a consisté à essayer de faire reculer l'Église, avec dans sa prétention à vouloir régenter l'ensemble de la société, est quelque chose qui vraiment fait partie de notre identité au sens mémoriel du terme. Et notre construction laïque, c'est d'abord ça. Et elle a une difficulté, cette construction laïque, c'est que, mais vous en parlerez avec Jean-Louis Blanco la semaine prochaine, enfin lors de votre prochaine session, c'est que du coup, dans les débats du présent, on oublie souvent d'où on part, c'est-à-dire du fait que justement, il a fallu faire des efforts extrêmement violents, quand je dis des efforts, des affrontements extrêmement violents, pour justement arriver à laïciser cette société française. Hein, ça part de la question de l'état civil, bien sûr, et de l'état civil du mariage, hein, du baptême, etc., qui était le moment où on enregistrait les naissances, et on va passer à une sorte de contrat, puisque un mariage, c'est un contrat entre deux personnes et non plus un sacrement. Et puis, on a remplacé le baptême par une déclaration, hein, des parents qui disent ceci est mon enfant. Et donc, le sentiment souvent quand on parle de l'islam, c'est qu'il y a cette idée qu'on va régresser par rapport à ce qu'on a construit. Je crois que c'est un préalable qui, à mon avis, explique les tensions qu'on a de plus en plus fortes, et je reviendrai aussi pourquoi. La deuxième chose qui explique les tensions en termes d'islam, et là c'est plus ce que tu m'avais demandé, c'est le rapport entre la démographie et la question religieuse. Hein. La démographie au sens où la particularité de la France, on le sait sur la longue durée, c'est que c'est un pays d'immigration, mais dans cette histoire de l'immigration, il y a un moment où, qui se situe à la fin des années 70 et beaucoup plus dans les années 80, où l'immigration du sud de l'Europe est devenue minoritaire par rapport à l'immigration du sud du monde. Hein, jusque au début des années 80, les principales immigrations en France étaient les Espagnols, les Portugais. Dans les années 70, les Italiens, bien sûr, encore plus fort, les Italiens dans les années 60. Et puis, il va y avoir un basculement qui est lié aussi à la dynamique du regroupement familial et qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés aujourd'hui dans l'ensemble de la population française, 10-11% de la population, hein, c'était 3-4% hein, il y a un siècle. Et dans cette part de l'immigration, une présence de plus en plus forte de personnes sociologiquement issues de pays musulmans, culturellement musulmans, avec cette dynamique, c'est que le culturel a été progressivement, je dirais, dominé dans une partie de cette immigration par le cultuel, avec l'effet que peuvent avoir les sociétés d'origine sur les populations immigrantes. La deuxième chose, c'est que quand on parle de l'islam de France, on a souvent on avait pendant très longtemps une focalisation sur l'islam maghrébin, ce qui est assez normal puisque on a des rapports particuliers avec le Maghreb, mais la diversité de l'islam aujourd'hui, elle est extrêmement forte. On l'a vu et on le voit en ce moment à travers un débat autour de la mosquée de Strasbourg, la progression extrêmement forte de l'islam turc, particulièrement organisé, mais il n'y a pas que l'islam turc, il y a l'islam subsaharien qui est là, présent, dont on parle peu, mais qui a des effets sociétaux et sociaux non négligeables. Et puis de plus en plus, dans certains départements, par exemple comme la Seine-Saint-Denis, de l'islam qui vient du sous-continent indien, pakistanais, bangladais. Et enfin, dans la demande d'asile, on a depuis 4-5 ans, une forte progression de la population d'origine afghane et qui a elle aussi un islam particulier. Donc il y a cette augmentation qui rend le fait musulman dans la société française beaucoup plus fort qu'il ne l'était il y a encore dans les années 60 ou 70. Alors, c'est au début des années 80, cette conjonction de la poussée, je dirais, sociologique qui s'accompagne malheureusement d'une tension, je dirais, politique autour de l'islam, que les pouvoirs publics vont réfléchir plus avant à l'organisation de l'islam de France. Alors, quand je dis les tensions politiques liées à la poussée sociologique, je veux parler de la première période d'attentat, hein, qui se fait jour en France et qui est une projection de ce qui se passe en Algérie. Je peux penser à Khaled Kelkan, hein, et puis de manière moins grave, mais tout aussi importante dans notre débat public et dans la société, les premières affaires du Foulard en 1989 à Creil, hein, où le fait religieux vient s'incruster dans ce qui a été le cœur de la bataille entre catholiques et républicains au XIXe siècle, c'est-à-dire l'école. On ne peut pas comprendre justement l'importance qu'ont eu les débats autour du foulard, si on n'a pas une mémoire, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'école est un lieu particulier dans notre construction nationale et particulier au sens où il a été vraiment le lieu de l'affrontement entre catholiques et républicains. Je rappelle qu'on a dissous les congrégations qui faisaient de l'enseignement, obligé les congréganistes à partir à l'étranger pour pouvoir vivre de leur métier, hein, et que le corps enseignant est historiquement structuré. On peut voir du reste dans les débats autour d'entre guillemets de l'islamo-gauchisme un des éléments de cette structuration, de cette déstructuration dans la violence que peuvent prendre parfois les débats. Mais le corps enseignant a été pendant très longtemps structuré justement dans le refus de la prégnance du religieux. Et à Creil comme à Aubervilliers, les enseignants qui ont porté la contestation autour de la présence du foulard, particulièrement Aubervilliers, qui va aboutir à la loi de 2004, étaient très majoritairement issus des courants historiques de la gauche laïque. Alors, dans les années 80, la première réflexion se fait autour de la nécessité d'organiser plus avant l'islam de France, avec cette idée qu'il faut que les pouvoirs publics aient un interlocuteur qui puisse faire vivre notre cadre laïque, c'est-à-dire le fait que sur un certain nombre de questions, eh bien, l'État ne peut pas choisir unilatéralement la manière de les trancher, mais elle a besoin d'un interlocuteur, et donc il fallait un interlocuteur comparable, disons, à la Conférence des évêques de France, à la Fédération protestante ou au consistoire. La méthode que va utiliser à l'époque Pierre Joxe, qui est de désigner unilatéralement les responsables musulmans avec lesquels il veut dialoguer, ne va pas ne va pas être, ne va pas survivre au sens où la légitimité va être d'emblée entachée par le fait que c'est le ministère de l'Intérieur qui désigne ses interlocuteurs. Et en 1997, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, reprend le métier, justement avec cette idée qu'il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas de conjonction entre des problèmes sociaux évidents, les discriminations par exemple, et la situation de fidèles musulmans qui ne pourraient pas exercer en toute dignité leur culte. C'est l'aboutissement justement de ce sentiment à partir des années 80 que les islamistes utilisent, peuvent utiliser de la question sociale pour essayer de tirer du ressentiment social vers leurs options politiques. Et donc Jean-Pierre Chevènement reprend ça, reprend le métier avec cette idée qu'il faut mettre en place une représentation qui ne soit pas issue de la simple désignation par l'État d'un certain nombre d'interlocuteurs. Pasqua, par exemple, à un moment donné, avait désigné la Grande Mosquée de Paris comme unique interlocuteur de l'islam de France, mais qu'il faut aboutir à un processus qui soit électoral et qui parte donc de la base des mosquées. Il le fait aussi, et c'est important de le rappeler, j'y reviendrai à la fin de mon exposé sur les questions proprement, proprement religieuses, avec cette idée que la France a une grande tradition de rapport avec l'islam, et quand il dit ça, il est sous l'influence intellectuelle, où il a été longtemps sous l'influence intellectuelle de Jacques Berck, qui expliquait que la France non seulement était un pays qui avait un rapport extrêmement important avec l'islam, avec le fait musulman, mais qu'en plus, c'était à partir de la France qu'on pourrait faire émerger, dans un contexte de plus en plus marqué par un durcissement du côté de l'islam, un islam des Lumières. C'était ça, la rhétorique de Jacques Berck, mais que pour faire émerger ça, eh bien, sur le plan pratique, il fallait vraiment la construction d'un cadre commun aux responsables du musulman qui permettent à la fois de régler des questions pratiques, le halal, les carrés musulmans dans les cimetières, la construction des lieux de culte, les aumôneries, mais aussi qu'il soit un cadre où commence à soit débattu des questions proprement théologiques. Donc le Conseil français du culte musulman qui va être mis en place et après ce qu'on a appelé la consultation, ce qui va durer un peu plus d'un an au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le rassemblement de responsables de mosquées et de fédérations qui vont discuter de la mise en place de cette structure. Hein. Donc cette consultation va aboutir à la signature d'une charte entre le ministre de l'Intérieur et les principales mosquées et les responsables musulmans, charte régissant les rapports entre le pouvoir public et le culte musulman. Et à partir de cette charte, les statuts vont être élaborés, et les statuts du Conseil français du culte musulman ont été élaborés par des techniciens du ministère de l'Intérieur, hein, moi, à l'époque, j'étais au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, bon, et c'est comme ça qu'on a conçu le chose, puisqu'on a fait, en fait, le décalque des élections sénatoriales. J'ai vu que dans la liste, il y avait un sénateur. Hein, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que les mosquées sont la collectivité locale qui donne droit à un certain nombre de grands électeurs. Ces grands électeurs désignent, élisent leurs représentants régionaux. Et leurs membres au conseil d'administration du Conseil français du culte musulman, qui lui-même va désigner son bureau et son président. Ça, c'était le cadre théorique. En 2003, à partir de ce cadre théorique, Nicolas Sarkozy va être l'accoucheur du Conseil français du culte musulman, hein, qui avait été élaboré élaborée à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est Nicolas Sarkozy qui a créé le Conseil français du culte musulman. En réalité, toute cette construction, c'est toute cette politique publique, elle a un aspect positif non négligeable, c'est la longue continuité entre 1997, 1998 et aujourd'hui, mais on pourra avoir un échange sur la crise actuelle du Conseil français du culte musulman. La caractéristique, c'est cette longue continuité au-delà des alternances. Hein, tout le monde a considéré qu'il y avait là un cadre qu'il fallait maintenir. Ce cadre, il a eu un résultat positif. Le résultat positif, qui était l'objectif recherché, c'est-à-dire l'amélioration de la situation des fidèles. La situation des fidèles, elle s'est considérablement améliorée et on peut la mesurer de manière objective. D'abord, c'est la construction des lieux de culte ou l'ouverture des lieux de culte. Il y avait, pour les collectivités locales, une difficulté très souvent à savoir si les interlocuteurs musulmans locaux qu'ils avaient avec lesquels ils pouvaient discuter étaient fiables ou pas et si il y avait nécessité d'établir un rapport de confiance pour permettre la mise en place de certains nombre d'opérations de construction de lieux de culte. Ça a marché. Et ça a marché, on mesure sur la longue durée, on était à 1 200 lieux de culte quand on enlève les salles de foyer des travailleurs migrants, disons à la fin des années 80, aujourd'hui on est à 2 700 hors foyer de travailleurs migrants, et quand on rajoute les salles de prière, on est à 3 000, on voit bien qu'il y a eu un effort soutenu, comme je le disais, par les collectivités locales, grâce en particulier à l'utilisation d'instruments juridiques qui ont été mis en place, non pas pour le culte musulman, mais d'abord pour le culte catholique. Hein, c'est le droit de faire des baux amphithéotiques pour la mise à disposition de terrain pour la construction des murs. Hein, c'est un mécanisme qui a été mis en place au moment où, dans les années 30, au moment où il y a une évolution démographique entre la campagne et les villes, et où l'Église a besoin de terrain pour construire de nouvelles églises. C'est ce qu'on appelle toujours les chantiers du cardinal. Hein, la légende veut que ça soit un accord entre le cardinal Verdier et Léon Blum. En réalité, c'est entre Henri Sellier et l'Église, Henri Sellier qui était en même temps constructeur de logements sociaux. Et du reste, quand on a construit des villes nouvelles, en Île-de-France par exemple, ou des constructions nouvelles, je pense dans le Rhône ou ailleurs, eh bien, cette dynamique des chantiers du cardinal, elle va perdurer, et vous avez des églises modernes qui sont dans des villes ou dans des quartiers nouveaux, hein, et qui ont été édifiés grâce à ces instruments juridiques. On peut y rajouter un instrument que les musulmans n'utilisent pas, mais c'est le fait que, sur le plan juridique, les collectivités locales peuvent garantir les emprunts qui sont faits par des associations cultuelles pour la construction de lieux de culte. Autre amélioration, c'est le développement du halal, qui est à la fois une pression du marché, mais aussi quelque chose qui a été pour lequel les pouvoirs publics ont porté une très grande attention. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont plus d'attention à porter, mais quand on discutait encore en 97-98 avec les responsables musulmans, mais c'était encore plus vrai dans les années 80, il y avait cette idée que le halal n'était pas disponible partout pour les fidèles musulmans. Aujourd'hui, le marché a eu sa propre dynamique et le halal est vraiment partout, sachant qu'à la base du halal carné, il y a la dérogation à l'abattage rituel qui est donnée par l'État à 3 grandes mosquées, la grande mosquée de Paris, la grande mosquée d'Evry qui est d'obédience marocaine et puis la grande mosquée de Lyon qui est d'obédience algérienne, mais de manière un peu particulière. Disons que la particularité de l'Algérie, c'est les fractions qui existent, et à un moment donné, Kamel Kaptan a réussi à obtenir cela à Lyon. Les carrés musulmans, c'est aussi une avancée. C'était quelque chose qui était extrêmement souhaité, en particulier par l'immigration d'origine algérienne au moment de la décennie noire, c'est-à-dire au moment où il était beaucoup plus difficile de rapatrier les corps. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une discussion. Les carrés musulmans, enfin, ça peut exister encore par endroits pour deux raisons. D'abord, parmi les communautés qui ont augmenté de fidèles musulmans, on est en termes d'immigration, aux alentours de 4 millions de personnes, hein, on a des nationalités où le retour du corps dans les pays d'origine est organisé de manière très forte. Je pense aux Turcs, aux Marocains aussi, ou par le biais des confréries pour les subsahariens. Et puis, l'espace dans les cimetières, c'est entre guillemets dégagé, puisque l'augmentation de la crémation dans une grande partie de la population issue historiquement de la culture catholique, eh bien, rend dans certains endroits les tensions moins vives en ce qui concerne le foncier, mais tout ça n'est pas vrai partout, il faut voir un peu les situations, mais globalement, on n'a plus cette revendication. Les aumôneries, on a considérablement aussi amélioré les aumôneries. En 2005, dans le lancement du Conseil foncier du culte musulman, on va installer le seul aumônier musulman des armées, j'allais dire du monde, enfin du monde non musulman, qui n'est pas sous l'autorité, aumônier en chef qui n'est pas sous l'autorité d'un aumônier chrétien. Hein, c'est en France, et c'était Abdelkader Arbi qui vient de partir à la retraite et qui a été changé. Et puis on a renforcé l'aumônerie pénitentiaire. C'était un sujet extrêmement prégnant. L'aumônerie pénitentiaire était historiquement dominée par l'aumônerie catholique, d'abord parce que il y a de manière consubstantielle, si, entre guillemets, un rapport très fort entre l'Église catholique et la pénitence, la pénitentiaire, hein, tout ça vient de là, et qu'en plus, l'aumônerie, c'est un concept chrétien, ce n'est pas un concept qu'on trouve dans le monde musulman. Mais on a donc cet aumônier militaire, c'était un élément symbolique extrêmement important, puisque on a de plus en plus de personnes de confession musulmane dans les armées, et les armées vont dans des théâtres d'opération, et dans des théâtres d'opération où une des difficultés psychiques à résoudre pour une partie de ceux qui sont engagés, c'est le fait qu'ils vont être confrontés à des personnes qui sont de même confession qu'eux, mais c'était vrai pour les gens qui se battaient entre eux au moment de la guerre de 14 ou ailleurs. C'est pas nouveau, mais c'était quelque chose à prendre en charge. On peut y rajouter l'aumônerie hospitalière, qui, elle, est sans doute l'aumônerie la moins structurée aujourd'hui, du fait de la dispersion, je dirais, des hôpitaux qui sont des établissements en propre. Et malheureusement, beaucoup de directeurs d'hôpitaux utilisent le salaire ou les dotations pour les aumôniers comme variable d'ajustement par rapport à des besoins qu'ils peuvent avoir pour leur activité propre, leur cœur de métier proprement sanitaire. Alors, ça, c'est le paysage global. Mais une fois que je vous ai dit ça, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que si ça fonctionnait véritablement, on ne passerait pas notre temps, et enfin, je finis, les pouvoirs publics, chaque président de la République qui est réélu, hein, depuis, j'allais dire 1995, mais enfin, à chaque fois, a un discours sur le thème « il faut qu'on s'occupe de l'islam », il y a un problème, et l'actuel président de la République n'y a pas manqué, comme François Hollande l'avait fait, et comme Nicolas Sarkozy l'avait fait avant lui. Alors, pourquoi il y a un problème? La première chose, je dirais, Et c'est ce qu'on appelle la prégnance de l'islam consulaire, c'est-à-dire le fait que dans cette démographie des musulmans que j'ai exposée tout à l'heure, qui est certes très variée, il y a des pôles dominants structurés et structurés autour d'identités nationales très fortes et qui ont des effets sur la manière dont les musulmans s'organisent. Alors, ces effets sont d'autant plus forts, je dirais, que si le Maroc, au Maroc, il n'y a jamais eu de discussion pour savoir si l'islam ou l'organisation du culte musulman pouvait être indépendant de la royauté, puisque c'est totalement consubstantiel. Hein, le roi du Maroc se considère comme un descendant du prophète et gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem. D'où notre problème, qui est devenu une faute, c'est le fait qu'on n'a pas appliqué la loi de 1905 dans les départements français d'Algérie. Et pourquoi je dis que c'est une faute? C'est parce que c'est sans doute l'endroit où on aurait pu avoir une situation où le culte musulman aurait pu évoluer libre de l'intervention étatique, comme cela a été pour les cultes en métropole qui, grâce à la loi de 1905, ont acquis, même si l'Église catholique ne l'a pas compris tout de suite, eh bien, la liberté d'organisation par rapport à l'État. Et nous, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons fait exactement l'inverse, puisque, alors que c'était prévu dans l'article 43 de la loi de 1905, nous n'avons pas appliqué la loi de 1905 en Algérie. Ça a été suspendu un temps, pendant 5 ans, puis après, on a dit qu'on la suspendait de nouveau, et puis, in fine, on ne l'a jamais fait, cette séparation de l'Église et de l'État, et non seulement on ne l'a pas fait, mais on a géré le culte musulman comme on gérait les cultes concordataires avant la séparation de 1905, c'est-à-dire qu'on a continué à faire ce qui se faisait avant 1905 pour l'ensemble des cultes avec le culte musulman, en du reste faisant main basse sur les biens des fondations pieuses musulmanes au moment de la colonisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a légué en mauvais héritage au FLN cette mainmise de l'organisation de l'islam consubstantielle à l'État algérien. Et donc, en 1962, le jeune État algérien indépendant, eh bien, il a continué à avoir une gestion étatique de l'islam. Alors, pourquoi ça a une importance sur l'organisation de l'islam aujourd'hui? C'est justement parce que cet islam consulaire, c'est la projection en France sur des personnes qui ont un attachement national, même si elles sont françaises, avec les pays d'origine, et qui sont par ailleurs croyantes. Eh bien, c'est la projection en France du fait que l'islam en tant que culte n'est pas indépendant dans ces États, et donc la réfraction, eh bien, c'est le fait que le Maroc a structure de manière financière et avec des cadres qui sont des imams ou qui peuvent aussi être des cadres laïcs, c'est fidèle, hein, c'est l'Union des mosquées de France qui est celle de l'actuel président du Conseil français du culte musulman qui s'appelle Mohamed Moussaoui, mais en plus se rajoute à cela comme projection les dissensions interne au Maroc, et nous avons deux fédérations marocaines en France, une qui est directement liée à ce qu'on appelle le Marzen, c'est-à-dire au palais, hein, à la royauté, et puis une autre qui est liée au Parti de la justice et du droit, qui s'appelle le Rassemblement des musulmans de France, et dont le président est un ancien président du Conseil français du culte musulman, M. Kebibesh. En ce qui concerne les Algériens, eh bien, pendant longtemps, l'immigration algérienne était structurée par les amicales des Algériens en France et en Europe, mais 90% de l'immigration algérienne en Europe, elle est en France. L'écroulement des amicales en même temps que s'est écroulé le FLN en Algérie au moment de la décennie noire, fait que le cœur de l'influence de l'État algérien sur la diaspora algérienne en France, il passe par le religieux et il passe par la grande mosquée de Paris et son réseau, puisque c'est ça qui reste vraiment comme structure avec, là encore, des imams qui sont envoyés tous les ans en France et avec le fait que, comme pour les Marocains, les plus grandes mosquées de ces nationalités, dans ces grandes mosquées, dans ces plus grandes mosquées, l'imam n'est pas pris en charge par le don des fidèles, mais pris en charge par les dotations que font ces États. Et enfin, troisième acteur dont la présence n'a pas cessé de grandir tout au long des années 90 et qui aujourd'hui pose un problème politique, pas simplement dans la structuration de l'islam, mais plus largement, et le président de la République l'a dit encore hier dans un entretien dans je ne sais plus quelle chaîne, enfin brute, je crois, enfin je ne sais plus, c'est les Turcs. Là, les Turcs, la projection de l'État turc, eh c'est la projection d'un État qui a une longue tradition administrative forte et des moyens financiers qui sont pas négligeables non plus. Hein. L'islam turc n'est pas un islam indépendant de l'État. En ce sens-là, la laïcité turque, c'est absolument l'inverse de la laïcité telle qu'on l'entend nous. C'est plutôt un régime concordataire au profit de l'islam. L'islam en Turquie est organisé autour d'une direction des cultes qui s'appelle la Diyanet et qui est la première administration civile de Turquie. Cette administration civile de Turquie, elle est aussi un instrument d'influence très fort pour structurer les communautés turques en Europe. En France, son entelle s'appelle le Comité de coordination des musulmans turcs de France, CCMTF, hein, et se rajoute à cela, et ça, là c'est lié à l'affrontement entre l'héritage kémaliste et la montée en puissance de l'AKP, mais avant que l'AKP arrive au pouvoir, eh bien, une autre organisation qui est celle dont on parle à Strasbourg, qui s'appelle le Miligoruch, qui est le noyau historique d'où a émergé l'AKP du président Erdogan, et ce qui fait que depuis plusieurs années, il y a une convergence d'intérêts entre ces deux organisations, le CCMTF, qui était avant la projection de l'islam turc dominé par les nationalistes kémalistes, et le Miligoruch, qui est l'islam tel qu'il a été réactivé par le président Erdogan, c'est-à-dire avec cette volonté de réislamiser la société turque. Alors, quand je dis réislamiser pour les Turcs, en réalité, tant pour les Marocains que pour les Algériens, que pour les Turcs, on est dans une dynamique de réislamisation de ces communautés, au sens où le principal vecteur de contrôle et d'influence, eh bien, c'est le religieux, dans une ambiance générale mondiale de la montée du religieux. Et c'est d'autant plus important pour eux que, par exemple, ça peut se superposer avec des enjeux électoraux qui sont devenus, je dirais paradoxalement, enfin paradoxalement, de plus en plus forts en Turquie, même si, quoi qu'on pense d'Erdogan, eh bien, c'est une société où on vote. Hein, où il y a des enjeux électoraux qui sont forts. On voit l'importance du travail qui est fait par l'AKP quand on voit que lors du référendum qui va augmenter les pouvoirs du président Erdogan, eh bien, le vote est acquis en Turquie à 51%, mais dans les diasporas, en Europe, il obtient des scores de 65 de 60 à 65, à 65%. Mais c'est vrai aussi pour le Maroc. Hein, il y a des élections dans le processus électoral marocain et le PJD qui est aujourd'hui au pouvoir, enfin, au pouvoir au sens gouvernemental, eh bien, utilise aussi ses instruments du religieux pour augmenter son influence politique dans les diasporas marocaines, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, et naturellement pour le pouvoir algérien, c'était la même chose. Hein, il faut avoir en tête, par exemple, que l'actuel recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est l'ancien président du comité pour la ré les réélections d'Abdelaziz Bouteflika en France. Hein. Et quand on sait comment ça fonctionne en Algérie, on peut imaginer que ce n'est pas simplement parce qu'il avait une affinité politique, une convergence intellectuelle avec Abdelaziz Bouteflika qui pouvait être en France le président du comité de soutien pour la réélection d'Abdelaziz Bouteflika. Dans ce paysage de l'islam consulaire, ce qui domine, je dirais, c'est l'affrontement. Il n'y a pas d'affectio societatis musulman hein, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, tous ces courants pourraient considérer que ce qui est plus important, c'est la foi, les fidèles, l'amélioration de leur situation et de présenter un visage à la société française qui puisse la rassurer au moment où, globalement, l'islam n'est pas toujours rassurant. Or, ce que va faire le président Sarkozy, par rapport au schéma électoral que j'avais indiqué, c'est qu'il va introduire les fédérations de manière forte, c'est-à-dire on va avoir deux choses, on va avoir les représentants élus et les représentants de droit issus des fédérations. Pourquoi il a fait ça? Parce que il s'est trouvé confronté à un problème politique qui est récurrent aussi et dont on a vu encore les effets au moment où Benjamin Stora a remis son rapport sur la manière dont on pourrait avancer autour de l'héritage négatif de la guerre d'Algérie. Eh bien, il s'est trouvé confronté au problème suivant, c'est que les Algériens, les représentants des fidèles algériens, eh bien, on lui a indiqué très clairement qu'il n'était pas concevable à leurs yeux que l'instance représentative du culte musulman ne soit pas présidée par un Algérien. Et Dalil Boubaker, qui était à l'époque le recteur de la Grande Mosquée de Paris, expliquant de manière très claire ce qu'il avait auparavant déjà fait avec Jean-Pierre Chevènement, mais qu'il a refait à ce moment-là, qui est de dire que si les Algériens n'avaient pas une place particulière, eh bien, ils se retireraient de l'ensemble du processus. Et donc, en faisant rentrer les fédérations, en même temps, il a imposé des compromis qui étaient, ben voilà, Dalil Boubaker est président, mais vous avez tant de postes, etc. Et une sorte de, je dirais, de micmac qui a entaché en partie la légitimité du Conseil français du culte musulman, avec des discours sur tout ça n'est pas totalement démocratique, transparent. Il y a une prise en otage par les fédérations, ce qui est le discours, par exemple, qu'on a de nouveau, qui est de nouveau mis en avant par l'actuel président du Mohamed Moussaoui, parce que comme les Marocains ont scissionné entre eux, hein, d'un côté le PJD et d'autre le Palais, et que lui, il représente le Palais, il n'était pas là au moment du compromis de 2003. Donc, il n'y a pas cette affectio societatis, et donc, depuis 20 ans, ce qui rythme la vie du Conseil français du culte musulman, ce sont ces affrontements constants entre les uns et les autres. Et nous sommes là au dernier épisode qui, à mon sens, risque d'être complètement fatal au Conseil français du culte musulman, puisque la Grande Mosquée de Paris, dont c'est l'objectif depuis le début, va sans doute réussir cette fois-ci à mettre par terre le Conseil français du culte musulman et du coup va apparaître comme ce qu'il y a de, entre guillemets, de plus solide dans les interlocuteurs de l'islam de France, la charte, les épisodes autour de la charte étant un des éléments. Hein, un jour, je dis qu'il y a des gens qui ne sont pas fréquentables par rapport à cette charte, et puis le lendemain, je m'allie avec eux pour embêter les Marocains, dont je dis qu'ils sont alliés avec ceux qui n'ont pas signé la charte, etc. Alors, ça, c'est important. Ça donne le sentiment, vis-à-vis de l'opinion publique, que les pouvoirs publics sont en échec, mais c'est important. Et en même temps, ce n'est pas, c'est pas le sujet qui, à mes yeux, est le plus problématique et n'ayant pas été résolu. Je vous ai dit tout à l'heure que le projet de Jacques Berck, enfin, tel qu'il était exprimé, tel qu'il était exprimé par Jean-Pierre Chevènement, c'était de dire la France peut être le creuset d'un islam des Lumières. Bon. Or, qui dit islam des Lumières dit d'une certaine manière des clercs, hein, qui sont en capacité de réfléchir à la dynamique de leur foi et au contenu de leur foi et du rapport que chaque croyant doit entretenir avec les autres tout en étant croyant. C'est-à-dire quel est le rapport des fidèles musulmans et de l'islam à l'altérité. Voilà, c'est ça un peu le cœur du sujet et c'est souvent résumé de manière un peu administrative et technique par qui forme les imams et à quoi on les forme, avec quel contenu théologique on peut les former. Or, ça, c'est ce sujet-là, eh bien, on est complètement dans l'impasse. On est complètement dans l'impasse parce que l'État n'a pas d'emblée la possibilité de mettre en place une formation théologique avec un contenu. D'autres États en Europe ont la faculté de le faire parce que ils n'ont pas le même type de enfin, il n'y a pas cette séparation très nette entre l'État et les cultes. On peut penser en Allemagne où il y a des facultés de théologie, en particulier voilà, aux Pays-Bas. Voilà. Et nous, on ne peut pas le faire. Or, c'est la question clé, c'est vraiment comment arriver à ce que ce qui domine dans l'islam de France, ce ne soit pas soit un islam conservateur très appauvri, tel qu'il en est dans les pays du Maghreb et qui se projette ici dans ce qu'on appelle l'islam du juste milieu, mais qui est un islam en réalité extrêmement conservateur. Du reste, il ne faut pas s'étonner, par exemple, dans cette projection de l'islam conservateur, que le recteur de la Grande Mosquée de Paris ait fait ce matin un communiqué extrêmement violent contre Marlène Schiappa, parce qu'elle a dit que dans une radio où je crois que les fidèles musulmans ou les responsables des cultes musulmans devraient accepter le mariage civil de personnes de même sexe. Donc lui, il fait un communiqué pour dire tout ça est intolérable. Bon, mais parce que c'est la projection de cet islam conservateur, cet islam conservateur que la loi séparatisme essaye de contrer dans certains de ses effets sociaux, c'est la disposition sur l'héritage, ou c'est la question des certificats de virginité, etc., qui est en réalité une question de dot. Hein. C'est en réalité une question financière. Enfin, les familles ne sont pas dupes, mais y a là du jeu d'un conservatisme musulman. Mais donc, cette projection-là, et puis surtout, la prégnance de ce qu'on appelle le salafisme, etc., c'est-à-dire le fait que ce qui domine aujourd'hui, ou ce qui est le plus en dynamique dans le monde musulman, c'est une conception de l'islam qui rejette véritablement l'altérité, le rapport aux autres. Hein. Et c'est tous les drames qu'on a en Irak, qu'on a eu en Syrie avec Daesh, etc., et qui est aussi la projection sans guerre de l'islam d'Arabie Saoudite. Et donc, nous, notre enjeu, c'était vraiment d'arriver à ce qu'il y ait quelque chose qui contrebalance ça. Et ça suppose une dynamique intellectuelle. Or, on ne l'a pas. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que il n'y a pas les cadres, parce que ce n'est pas simplement un individu tout seul et l'enjeu d'avoir une sorte de cadre qui puisse être aussi une école, hein, une école de pensée, au sens où une école, c'est en même temps un lieu. On ne l'a pas. On n'a pas ça. Et en plus, on a la faiblesse sociologique au sein de l'islam c'est le fait que les personnes qui réussissent socialement et qui sont issues culturellement de familles musulmanes, eh bien, elles refusent de s'investir dans l'organisation du culte parce qu'elles ont le sentiment qu'en s'y investissant, c'est-à-dire en allant se confronter avec ces anciens ouvriers, ces blédards, comme on dit parfois, etc., qui ont construit les mosquées et qui les gèrent, eh bien, on régresse socialement. Or, la particularité du culte musulman, c'est le seul culte en France qui n'est pas investi par ses élites sociales. Hein, le protestantisme est investi par son élite sociale, si ce n'est les grandes familles protestantes historiques. Hein, c'est comme ça que le ministre Joxe était président de la Fondation du protestantisme français, ou le pasteur de Clermont. Enfin, bon, voilà, ces vieilles familles qui encadrent le culte protestant. Mais c'est vrai chez les catholiques, et c'est vrai aussi dans le monde juif, hein, où les responsables consistoriaux font partie des élites sociales du monde juif. Hein. Vous prenez les personnes qui sont à la tête du consistoire, vous aurez naturellement les médecins. L'actuel président est un médecin, mais aussi polytechnicien ou autre, etc. En ce qui concerne le culte musulman, vous n'avez pas ça. Vous avez immédiatement une mise à distance. Hein, et ça a des effets aussi, justement, sur la capacité à produire une pensée qui en soit en même temps une pensée de rapport à la foi et une pensée qui s'ancre dans la société française. Alors, j'en terminerai par là. De manière provocatrice, dans un livre que j'avais fait, que j'ai publié il y a maintenant 3 ans, j'avais une expression, c'était qu'il nous manque des Bernanos musulmans. Pourquoi je disais ça en 2017? Parce que la particularité de Bernanos, c'est que personne ne pouvait douter de sa foi. Or, souvent, quand on présente un tel ou un tel qui peut avoir un prénom musulman comme un intellectuel musulman, en réalité, il est peut-être sociologiquement issu de familles musulmanes, mais enfin, son rapport à la foi, il est ténu, si ce n'est inexistant, ou en tout cas, il ne se revendique pas comme tel. Alors que Bernanos, oui, c'était ça. Et c'est Bernanos, quand il écrit Les grands cimetières sous la lune, eh bien, il dit, voilà, c'est parce que je suis catholique que je ne supporte pas que les franquistes assassinent comme ils le font au nom de Dieu. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui de manière très forte, comme il nous manque aujourd'hui des gens qui osent dire, par exemple, que eh bien, ce n'est pas normal que la liberté religieuse n'existe pas, hein, de manière individuelle de l'autre côté de la Méditerranée, alors qu'en même temps, ils prétendent qu'ils sont indépendants de ces pays, et alors qu'ils ne le sont pas, et que les confrontations entre nos deux sociétés et l'équilibre que ça produit, eh bien, est particulièrement important pour la stabilité aussi de notre propre société, etc. Et voilà un peu la situation dans laquelle on est. Et elle n'est pas réjouissante, puisque on a le sentiment d'une très grande stagnation. Et pour quelqu'un qui s'occupe de ça depuis près de 20 ans, les choses n'avancent pas vraiment. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire en introduction.
Merci beaucoup Didier. Ça va, tu nous vois de...